Quelle joie de vous retrouver. Et avant de partager cette parole fraternelle, j'avais une parole à vous transmettre, puisque la semaine dernière, j'étais dans une autre église baptiste de notre fédération. Ils m'avaient invité à être présent parmi eux pour y prêcher, puisque en plus, ils ont la difficulté, au moins pour cette année, de ne pas avoir de pasteur et donc manquent un petit peu parfois de prédicateurs. Et parce que ce sont nos frères et sœurs et qu'ils sont pas si loin que cela, alors je pense que peut-être parmi vous, quelques-uns en connaissent certains d'entre eux, sachez qu'ils vous saluent tous, très fraternellement. Et ils prient pour vous aussi, comme ils l'ont fait la semaine dernière, je suis sûr qu'ils le font encore aujourd'hui. Voilà, les transmissions sont faites. Alors aujourd'hui, le message que je vais partager avec vous... S'ancre dans le thème que nous a proposé l'association Porte Ouverte. Je ne sais pas si ça vous parle, peut-être pas à tous, mais c'est une association internationale. Je crois que le nom anglais est différent. Je cherchais Laurent. Oui. Je ne suis pas sûr que ce soit ça, mais c'est possible. Oui. Je ne sais plus. Parfois, les appellations changent forcément, mais en tout cas, voilà, c'est une association internationale qui a pour but surtout de pouvoir, au moins de notre côté, de nous transmettre les témoignages de frères et sœurs qui partagent des situations beaucoup plus difficiles que la nôtre et nous donnent, nous, l'occasion parfois de les soutenir déjà par la prière, mais autrement. Et j'aimerais, pour commencer, vous lire un témoignage. Alors, j'ai pas opté pour la solution des vidéos, mais plus pour les témoignages écrits. Alors, je vous invite à écouter. C'est le pasteur d'un pasteur dont le prénom est Thomas. Très souvent, ce ne sont pas les vrais prénoms, parce que n'importe qui peut les lire, et donc même les persécuteurs pourraient trouver l'info. Mais il s'appelle ainsi, pasteur Thomas, et il travaille et il vit en Inde. Et voilà ce qu'il dit. « Des gens sont venus pour m'emmener dehors, et ils demandaient « Pourquoi tu convertis notre peuple? Pourquoi tu leur donnes de l'argent et tu les fais changer de religion ?» J'ai répondu « Non, je n'ai donné d'argent à personne et je n'ai converti personne. Vous pouvez leur demander si je les fais changer de religion. Je parle simplement de l'amour du Seigneur Jésus-Christ et de ce qu'il a fait pour nous. » Et pendant que je parlais, quelqu'un m'a frappé sur le nez. J'ai commencé à saigner. Je protégeais mon visage avec mes mains et ils ont commencé à me frapper avec des bâtons, avec leurs pieds et leurs poings. Ils m'ont frappé avec violence. Ils m'ont lancé des pierres. Et après ça, ils m'ont traîné dehors dans un autre endroit. Certains disaient « Versons du kérosène sur lui et brûlons-le vivant ». Quand j'ai essayé de me relever, on m'a frappé avec une barre de fer sur mon côté gauche, du sang est sorti de mes oreilles et je me suis évanoui. Je sentais que des gens me frappaient et quand j'ai ouvert mes yeux, j'étais en prison. Beaucoup de gens se sont présentés quand j'étais à l'hôpital. Des commissions pour les droits de l'homme sont venues me voir et m'ont dit « S'il vous plaît, donnez-nous un nom pour que nous portions plainte. » Et écoutez la suite. J'ai répondu « Non, je ne veux pas porter plainte contre eux parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Je continue à prier pour ce village parce qu'il faut que tous ces villageois sachent qui est Jésus. Je leur ai pardonné, bien sûr. » Je les aime. J'arrête là ce témoignage que je trouve très fort. Certes choquant aussi par la violence qui est décrite, mais heureusement ça n'est peut-être que par des mots. Des images auraient été peut-être plus dures, ou même le témoignage venant de la personne elle-même. Mais je vous avoue, il y a plein d'autres témoignages, mais en lisant celui-ci en particulier, je suis resté, moi, perplexe pour une chose. Pour ce qui est dit à la fin de son témoignage, quand cette association de défense des droits de l'homme vient le voir, et puis la réponse qu'il leur donne. Et sa réponse m'a laissé perplexe par la non-dénonciation que ce pasteur a voulu dire. Non, je ne veux pas donner de nom. Je ne vais pas vous donner le nom de celui qui ou de ceux qui m'ont fait cela. Je vous avoue, ça m'a laissé un petit peu interrogatif. Et moi, aujourd'hui, dans mon contexte, plutôt paisible, j'ai la chance de ne pas avoir de gens qui viennent me sortir et me taper. Or, j'ai quelques voisins parfois qui m'engueulent un petit peu, parce que quand je leur dis qu'ils n'ont pas à se garer là, ils ont déjà beaucoup de mal. Et presque toutes les semaines, je me dois de m'expliquer le plus gentiment que je peux avec certains d'entre eux. Bon, ils ont quelques complexes aussi avec ça. Mais honnêtement, dans mon contexte paisible, je ne vois pas, on ne voit pas où est le mal à balancer, je permets l'expression, elle est assez moderne et revient de temps en temps, à balancer son bourreau, celui qui nous fait du mal. Je crois que d'ailleurs il y a peut-être aujourd'hui des manifestations féministes qui cherchent à balancer leur ceux qui abusent d'eux, ceux qui sont sexistes et les font souffrir aussi, je comprends. Mais je me permets de poser la question, elle est peut-être bête et naïve, mais quand même, quel mal y a-t-il à dénoncer les persécuteurs, les bourreaux, à vouloir qu'ils soient sévèrement punis et que leur nom soit rendu public afin que l'opprobre tombe enfin sur eux? Je me permets de le dire sur un ton voulu, mais n'est-ce pas là qu'une juste rétribution du mal qu'ils ont perpétré, que l'on peut espérer et attendre pour eux? Je vous pose la question, je ne vous demande surtout pas de répondre. Laissez-moi continuer. Or, cette situation, celle que je vous ai lue de ce témoignage, il y en a d'autres, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, nous rapporte d'ailleurs cette association Porte Ouverte par son travail, ce témoignage me semble crucial pour nous. D'ailleurs, cette année, ces témoignages peuvent et doivent, je l'espère, nous interpeller non seulement à persévérer au quotidien, à les soutenir, tous ces frères et sœurs persécutés, là où ils sont, et dans le témoignage qu'ils veulent continuer d'avoir auprès des gens qui parfois aussi leur veulent du mal. Mais j'espère aussi que ceux ou ces témoignages, que vous aurez l'occasion peut-être de lire, de découvrir, d'aller voir sur Internet et autres, nous serons pour nous une exhortation de notre Seigneur, telle qu'on peut l'entendre et la lire, notamment, il y a plusieurs passages, mais j'en ai choisi qu'un, c'est celui qui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 6. Alors, si, par exemple, vous avez votre Bible, n'hésitez pas à la prendre, je vous laisse le temps de le faire. Évangile de Luc, chapitre 6, à partir du verset 27, et nous irons jusqu'au verset 35, voire 36, allez, 36. Donc Luc, chapitre 6, les versets 27 à 36. Écoutons alors. Quant à vous tous qui m'écoutez, voici ce que je vous dis. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. Et si quelqu'un te gifle sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi ta chemise. Donne à tous ceux qui te demandent, et si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, n'exige pas qu'il te le rende. Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pensez-vous avoir droit à une reconnaissance particulière? Les pécheurs aiment aussi leurs amis. Et si vous faites du bien seulement à ceux qui vous en font, pourquoi vous attendriez-vous à de la reconnaissance? Les pécheurs n'agissent-ils pas de même? Si vous prêtez seulement à ceux dont vous espérez être remboursés, quelle reconnaissance vous doit-on? Les pécheurs aussi se prêtent entre eux pour être remboursés. Vous, au contraire, alors c'est le verset clé, mais aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans espoir de retour. Alors votre récompense sera grande, vous serez les fils du Très-Haut, parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et les méchants. Votre Père est plein de bonté, soyez bon comme lui. J'arrête là ma lecture, ce sera le passage que je vous invite encore à méditer, peut-être après cette matinée, mais que ce soit ce témoignage ou plus encore ces paroles du Christ, pour nous, soyons honnêtes. L'exhortation que l'on peut entendre là, notamment ce verset 35 qui est le verset clé, c'est une exhortation qui est quand même très embarrassante. Celle d'aimer nos ennemis. Alors je ne sais pas si vous avez beaucoup d'ennemis, peu d'ennemis, peu importe et quels sont vos ennemis, mais nous avons toujours des gens qui nous haïssent, quelque part, d'une certaine manière, même si c'est temporaire. Mais cette exhortation reste, d'une certaine manière, embarrassante. Certains, même depuis longtemps, y ont vu là l'un des enseignements les plus radicaux que le Christ nous a ordonné de suivre. Alors, il y en a peut-être des encore plus durs, mais celui-ci est vraiment radical. Aime ton ennemi. Si radical d'ailleurs que, il y a longtemps de cela, ce sera un autre témoignage, mais celui-là est passé, vraiment passé, si radical que nos frères ménonites, aujourd'hui, en ont d'ailleurs conservé les récits de personnages de leur propre foi, mais d'il y a quelques siècles, et on en fait des martyrs. Ces personnages qu'on regarde comme des modèles de foi, qui disent à quel point suivre Christ peut être ceci aussi. Et je me le rappelle parce que quand je faisais encore ma théologie, en vue de me former pour devenir votre pasteur notamment, j'avais un certain professeur d'histoire de l'Église qui s'appelle Neil Blow, or qui lui-même est ménonite. D'ailleurs, c'est un de nos proches voisins, il est tout à côté. Et nous rappelait justement ce témoignage que j'ai retrouvé aussi d'ailleurs dans la brochure de Porte Ouverte pour cette année. Je vous lis là aussi le témoignage, même si c'est une histoire ancienne. Il s'agit de l'histoire et du témoignage d'un certain Dirk, je ne sais pas comment il faut le dire, Willems, qui est né à Asperen, dans la province de Geldre, aux Pays-Bas. Donc déjà avec ma voix là, c'est difficile, mais essayez de comprendre les noms. Et ce personnage-là est devenu anabaptiste. Aujourd'hui, on dirait ménonite. Autrefois, il s'appelait seulement anabaptiste. Ce fait, ainsi que son dévouement continue à sa nouvelle foi et le baptême de plusieurs autres personnes chez lui, ont conduit à sa condamnation par l'Église catholique romaine aux Pays-Bas et à son arrestation. Willems a été détenu dans un palais résidentiel qui avait été autrefois transformé en prison, et d'où il eut l'occasion autrefois de pouvoir s'en échapper à l'aide d'une corde qu'il avait faite avec des chiffons noués. Bon, pas bête le bonhomme, il a réussi quand même à s'échapper. Mais écoutez la suite. Quand il s'est échappé, il y a un garde qui a cherché à le rattraper. Et celui qui avait remarqué son évasion l'a poursuivi, et on était en plein hiver, et juste auprès de ce château servant de prison, il y avait un lac gelé. Ce lac s'appelle le Hondega, je crois. Et les faibles rations que ce cher Willem recevait à la prison l'avaient quand même rendu plutôt léger. Il devait être fin comme une allumette, j'en suis sûr même. Et lui, il a pu traverser le lac gelé, parce que la glace était fine, très mince. Mais son faible poids lui permit de traverser sans trop craindre cela. Par contre, le garde, lui qui était un homme en armes, qui mangeait mieux et qui surtout était armé et portait certainement une armure, de par son job, se devait de le poursuivre. Et donc, est allé sur la glace et l'a suivi. Malheureusement, son poids et sa densité ne lui a pas permis d'aller très loin. Et il est tombé dans l'eau gelée. Or, je vous laisse deviner ce qui s'est passé après. Willems, qui était, en raison de cette foi qu'il avait reçue, devenu anabaptiste, et s'efforçait de suivre chacune des ordonnances, les commandements de Dieu, du Seigneur Jésus, y compris d'aimer son ennemi, entendait ce qu'il a fait. Ce jour-là, ce cher Willems, voyant le soldat qui le poursuivait et cherchait à nouveau à le remettre en prison, l'a vu tomber et allait mourir. C'était sûr. On tombe dans un lac gelé avec des armures, des choses comme ça. Même quand l'eau est chaude, vous avez toutes les chances de vous noyer. Willems a fait demi-tour. Vous voyez pourquoi. Il a fait demi-tour pour vouloir sauver la vie de son ennemi, de son poursuivant, de son geôlier. La suite est plus ou moins heureuse. Son geôlier a été sorti de l'eau. Et certainement a survécu à cela. Par contre, pour Willems, ce cher frère dans la foi d'autrefois, lui a été remis en prison. Parce qu'il a été saisi aussi par cela. Certainement d'autres soldats sont venus après et l'ont récupéré. Il a été remis en prison et il a subi le sort qui lui était destiné, celui qui avait été décrété par d'autres personnes et qui avaient souhaité le mettre en prison. Il a été brûlé sur un bûcher près de sa ville natale et c'était le 16 mai 1569. C'est pas une histoire inventée, c'est une histoire vraie, et je sais que nos frères ménonites, pour certains encore, se rappellent de cela, y compris de l'histoire d'autres personnages, d'autres frères dans la foi, d'autres fois, qui ont aussi témoigné du radicalisme de leur engagement, de la volonté de suivre et d'obéir à Jésus, même dans des circonstances comme celle-là. Ainsi, les protestants radicaux, ces anabaptistes, c'était vraiment les premiers. Hein. D'ailleurs, nous en sommes très souvent les héritiers, nous, ce qu'on appelle les évangéliques. Nous avons poursuivi cela. D'ailleurs, les baptistes sont nés grâce aux anabaptistes. Ce sont des Anglais protestants qui fuyaient la persécution en Angleterre, qui ont croisé des anabaptistes qui étaient eux-mêmes assez persécutés et ont découvert quelque chose dans la foi qui leur manquait. Et le baptisme est né. J'arrête là pour les pages d'histoire, mais je reviens plus encore sur cette exhortation. Ces protestants radicaux, ceux qui autrefois avaient été appelés anabaptistes, ont cherché à vivre selon les exhortations du Seigneur, au point que certains sauvèrent leurs bourreaux au prix de leur propre vie. On en a entendu un court témoignage. Je vous avoue, quand je relis cette histoire, bien que je l'avais déjà entendue avant, j'y vois toujours une forme de folie. Une folie, et je pèse mes mots, je pense que c'est juste de pouvoir le dire. Je n'ai pas dit une idiotie, loin de là, parce que je pense qu'une folie peut être très positive. L'idiotie, jamais. Et pourtant, nous entendons là, dans ces témoignages, que ce soit ce pasteur aujourd'hui en Inde, et c'est un témoignage d'actualité, ce cher pasteur Thomas, dans le nom qui lui est donné, nous entendons là, peu importe les histoires, une radicalité de l'amour du prochain. Bien que ce prochain, celui-ci, puisse œuvrer à votre mort ou à votre souffrance. Il y a là, d'ailleurs, comme je l'ai dit au tout début, de quoi rester perplexe. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu me demandes, Seigneur? N'était-il pas même suffisant de voir les choses sous un autre œil? Autrefois, comme aujourd'hui. Comme l'ont eu fait, d'ailleurs, beaucoup d'hommes sages en différentes époques. Je vais vous citer quelques personnages qui ont eu des réflexions qui sont très très proches. Alors, bon, parfois c'est lointain, un certain Socrate. C'est loin, hein, c'est un bonhomme grec, un de ces sages de son temps, environ 400 ans avant Jésus-Christ, avait dit ceci, et c'est déjà bien. Les choses qui te mettent en colère lorsque tu en souffres par les mains des autres, ne le fais pas aux autres. On a l'impression d'entendre une parole d'évangile. Bon, Socrate... Loin de tout cela, hein, mais ça y ressemble. Prenons un autre personnage, un homme juif, un rabbin. Un de ces personnages qui ont beaucoup compté dans le judaïsme. D'ailleurs, les pharisiens sont venus parfois titiller Jésus avec la pensée de ce rabbin. Et ce rabbin, c'est Hillel, qui quand on lui demandait de résumer l'enseignement de la Torah, c'est pas rien, à quoi tu résumes tout cela, a dit « Ce que tu ne voudrais pas que l'on te fie, ne l'inflige pas à autrui ». C'est un homme de Dieu. N'a-t-il pas raison quand il dit cela? Je vous le rappelle, hein, ce que tu ne voudrais pas que l'on te fie, ne l'inflige pas à autrui. C'est bien. C'est profondément bien. Alors, peut-être que vous me savez un peu taquin, donc je ne suis pas sûr que ce soit encore exactement ce que j'attends. N'est-on pas là dans la même idée de cet amour du prochain, y compris de celui qui nous veut du mal? C'est vraiment beau de pouvoir y parvenir, déjà, à cela. Et pourtant, quand j'entends, à côté de cela, l'enseignement de Jésus, ce que nous avons entendu en Luc 6, mais on le retrouve ailleurs aussi, notamment dans l'évangile de Matthieu, un enseignement qui va pourtant dans le même sens. Ne pas chercher la querelle. L'enseignement de Jésus, à côté de ce qu'on vient d'entendre chez Socrate, chez d'autres, etc., etc., et puis il y en aurait d'autres qu'on aurait pu citer encore. Son enseignement semble si radical à côté de ses belles pensées, de ses sagesses bien humaines. Car selon Jésus, il ne s'agit pas de s'arrêter à ne pas faire ce qui est mal, de ne pas le faire aux autres. Jésus nous demande et nous enseigne d'aller au-delà de cela. Aller d'au-delà de ce qui nous semble encore atteignable. Parce que déjà, de ne pas arriver à ne pas faire le mal à l'autre, ça nous semble parfois déjà être une épreuve haute. Mais Jésus dit non, ça sert pas, c'est pas suffisant. Je vous demande beaucoup plus. Il veut que, pardon, que nous commencions à faire du bien. Et pas seulement le vouloir pour l'autre. Il nous faut aimer nos ennemis. Et l'amour, c'est pas une parole, c'est pas un souhait. Pour ceux qui ont un amoureux, une amoureuse, ou un compagnon ou une compagne, je pense pas que votre relation se base juste sur des souhaits. Ça va pas très loin, hein, en général. Voire il ne se passe rien, même. Il ne s'agit pas d'amour. Oui, Jésus attend de nous que nous aimions nos ennemis. Et cela est très agaçant, quand même. Soyons honnêtes. Il y a des moments où ça ne nous fait pas plaisir. Il nous faut aimer nos ennemis, et cela exige, et exigera, beaucoup de chacun d'entre nous. Suivant en plus nos caractères. Nous avons parfois, pour certains, des caractères qui, quand on nous titille un petit peu, on a envie de répondre du tac au tac. Chacun voit où il en est, hein. Mais l'amour de l'ennemi va à l'encontre de tous nos réflexes. Soyons honnêtes. Y compris de nos propres réflexes de protection, qui sont parfois même premièrement verbales. On se sent agressé, on se sent bousculé, on se sent haï. On a envie de répondre à cela. Bon, après, si vous êtes du genre un petit peu plus entreprenant, il va y avoir peut-être une réponse physique, mais... Car, très honnêtement, quand nous sommes insultés, quand nous sommes tournés en dérision, quand nous sommes caricaturés, je ne parle pas dans des persécutions fortes, hein, il nous semble très souvent naturel, voire tentant, et même logique, voire normal, de répondre sur le même plan. Pas plus, hein, mais sur le même plan. On me bouscule, bah je te bouscule. Faut que tu comprennes, il y a des choses qui ne sont pas, s'il te plaît. Bon, je le dis presque trop gentiment, là. Hein. Et vous me direz, c'est très biblique. Il me bouscule, je le bouscule. Y a-t-il pas un passage à un moment donné qui évoque que c'est comme ça qu'il nous faut faire? Celle qu'on a appelée, d'ailleurs, la loi du talion. Vous savez, œil pour œil, dent pour dent, bon, pour faire allonger la liste. Hein. Mais cette loi du talion, qu'est-ce que c'était? Je me permets de le dire ainsi, et c'est très vrai. C'était un brouillon que Dieu communiqua aux hommes. Un brouillon. Ce qui est dans l'Écriture est à comprendre dans toute la perspective des Écritures. Dieu, quand il a ordonné cela à un certain temps, c'était vraiment pour les amener déjà à passer une étape, mais de ne surtout pas s'y arrêter. Et Dieu a communiqué cela, qui était pour moi comme un brouillon, afin que les hommes, en ce temps, soient en vue d'arriver au commandement d'aimer leurs ennemis. Il traçait la voie. Aujourd'hui, parce que nous n'en sommes plus avec cette loi seulement, nous avons l'enseignement du Christ qui nous est parvenu aussi. Nous n'avons plus le droit de seulement ne pas vouloir le mal pour nos ennemis. Bien plus, nous avons, et c'est là que ça devient franchement agaçant, j'y reviens, un devoir d'amour envers eux. Et pour cela, on ne peut pas trop compter sur eux, sur ses ennemis du quotidien, afin qu'ils prennent les devants. Parce qu'on aimerait qu'ils le fassent. Après tout, ce sont les fautifs, c'est eux qui posent problème. C'est à eux de régler le problème. C'est à eux de venir s'excuser. Quand vous avez un ennemi, mais un vrai ennemi, pas le pire qui soit, hein, mais quelqu'un qui ne vous aime pas, je ne suis pas sûr que vous allez facilement voir quelque chose opérer de lui-même. Or, sauf si vraiment Dieu le touche, et parce que vous priez beaucoup pour lui. Pourquoi pas? Il y a cette espérance. Mais Christ ne nous dit pas d'attendre cela de sa part. Il nous invite, nous, à être dans l'initiative. Nous avons le devoir de prendre de l'initiative, car c'est le Seigneur qui nous l'ordonne. Et notez bien ceci, ce commandement du Seigneur à aimer notre prochain, à aimer notre ennemi, n'est pas un ordre à avoir de bons sentiments envers ceux qui ne nous apprécient guère. Ah, en fait, il est quand même bien pour certaines choses. Non, ça n'a rien à voir. L'amour dont il est question est celui que parfois on entend nommer, il y a des mots comme ça en grec qu'on connaît un peu entre chrétiens, sans bien les connaître, hein. Mais il y a un mot comme ça qu'on entend régulièrement dans nos églises, sans trop savoir ce qu'il signifie, le mot « agapé ». On entend souvent « on s'assoit, on mange, c'est sympa, etc. Bon, » c'est une des usages que l'on en a aujourd'hui, mais l'amour dont il est question, cette invitation à aimer notre ennemi. Le mot parfois employé, ou le mot utilisé ici, c'est dans le grec « agapé ». Alors qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est souvent à cause de l'incompréhension qu'on a du mot « amour » que l'on n'arrive pas à aimer nos ennemis. J'essaie de vous le redéfinir. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par cette définition de l'amour de l'ennemi? L'amour dont il est question ne relève pas de l'amour que l'on entend trop souvent aujourd'hui, à l'image par exemple des chansons Rose Bonbon. Bon, toutes ces chansons niaises, guimauve et gnangnang, quoi, tout ce que vous voulez. Désolé si vous aimez ça, c'est pas mon truc, voilà, c'est dit. Je suis taquin, hein, vous le savez. Mais ça n'est pas cet amour, dans cet usage très souvent familier que nous avons du mot amour dans la vie de tous les jours, d'un amour qui va pas très loin, qui est très superficiel et qui s'intéresse à des choses qui me plaisent et qui me rassurent. C'est pas ça l'amour, surtout pas celui que Christ nous invite à avoir pour nos ennemis en plus. L'amour que nous sommes invités à manifester, y compris envers nos ennemis, est cet amour qui n'est pas dirigé vers ceux avec lesquels nous avons des affinités. Parce que très souvent, nous définissons l'amour par rapport à ceux que nous avons facilité à aimer. Et nous pensons que l'amour, c'est ça. Ça n'est pas ça. L'amour dont souvent parle l'Évangile, ça n'est pas celui-là. Il n'est pas cet amour qui fait écho à nos inclinations naturelles qui nous portent à vouloir être avec certaines personnes en particulier, parce que quand je suis avec eux, avec lui, avec elle, ben, on passe un bon moment. J'aime être avec lui. Ou parce que j'aime tel artiste, parce que quand j'y vais, ça me fait plaisir. C'est pas de ce genre d'amour dont il est question. Rien à voir. Alors j'y viens, hein, pour l'instant je ne fais que par la négative. Si ce n'est pas de cet amour dont il est question, voici l'amour que Jésus nous invite à manifester envers même nos ennemis. Il s'agit d'un amour qui choisit de donner plutôt que de chercher à prendre, même ne serait-ce qu'un peu. Il s'agit d'un amour qui se fait raisonnablement petit au lieu de vouloir occuper tout l'espace. Et je continue. Il s'agit plus encore d'un amour qui veut le bien de l'autre plutôt que le sien. Pour le dire autrement, cet amour auquel Christ nous invite est un amour affranchi de tout égo. C'est-à-dire, le moi, le je, ne peut pas interférer et entrer en compte dans cet amour que je me dois d'avoir pour mon ennemi. Si c'est vraiment cela que l'on saisit, si nous comprenons le type d'amour que Jésus nous invite à avoir pour nos ennemis, c'est vrai qu'il va y avoir quelque chose à faire pour nous. Et parce qu'il s'agit de cet amour, rien, a priori, alors ne peut s'opposer à aimer l'autre, puisque je ne dois pas y mettre ce que moi je ressens là-dedans. Ce n'est pas moi, avec mon regard sur lui qui, lui, me persécute, qui doit interférer dans cet amour. Je dois l'aimer autrement. Et c'est là la difficulté. Rien ne doit s'opposer à aimer l'autre, celui qui m'est totalement différent, ce prochain, parce que même l'ennemi est peut-être un prochain, même si c'est quelqu'un qui vient à me torturer, ne serait-ce que psychologiquement, ou verbalement, peut-être physiquement. Rien ne doit m'empêcher d'aimer celui qui me veut du mal, celui qui ne m'aime pas. Et que moi aussi, peut-être jusqu'ici, je n'aimais pas. C'est en général assez probable. Car je me dois de l'aimer autrement. Je me dois de l'aimer sans regarder à ce que moi je vois chez lui. À ce que je sais de lui. Mais à l'aimer parce qu'il est tout aussi digne d'être aimé que moi. Car lui, comme moi, vous pouvez mettre elle hein, si vous préférez, mais... lui comme moi, nous sommes tous deux créatures aimées de Dieu. Et la difficulté, c'est qu'il m'est difficile parfois d'avoir ce regard-là sur l'autre quand lui se fait haïssable, moins aimable si vous préférez pour être gentil. Et l'on voit tout l'enjeu de ce commandement, ce que lui, que je peux qualifier ici de commandement complètement dingue, celui d'aimer notre ennemi. Mais celui d'aimer notre ennemi, ce commandement devient possible, car il ne se base plus sur mes sentiments, ou même sur mon ressenti, ou même sur mes expériences avec cette personne. Mais il se base et doit se baser sur ce que Dieu peut créer en moi. De pouvoir le regarder tel que lui le voit. Cet amour peut être possible parce que c'est un amour qui se veut pratique, par le bien qu'il cherche à prodiguer à l'autre, que ce soit en parole ou en acte, et qui n'attend surtout rien en retour. D'ailleurs, si vous l'attendez, vous risquez d'être très déçu. Il n'est pas sûr et certain que cet ennemi, même si vous commencez à montrer que vous voulez son bien et que vous voulez l'aimer, qu'il vous rende tout de suite l'appareil, dans le bon sens. Il est fort probable qu'il continue de vous haïr pendant un temps. Donc n'attendez rien. Et bien que, arrivé à ce stade, je puisse vous l'avoir défini, cet amour que Jésus nous invite à avoir envers notre prochain et aussi notre ennemi, je peux deviner que nous pourrions nous accorder sur le fait que cela nous semble ne serait-ce que très difficile, voire pourquoi pas impossible. Et je peux l'imaginer pour des personnes qui subissent des situations douloureuses, avec de souffrances réelles, profondes, d'y voir là une ordonnance, un commandement du Seigneur qui semble cruel, voire absurde. Je me permets de le dire comme ça, je ne dis pas que ça l'est. Mais ça peut être perçu ainsi. Et pourtant, cet amour est possible. Et ce qui me frappe, personnellement, c'est que parfois, nous qui sommes dans des situations raisonnablement paisibles, nous ne subissons pas des persécutions outrageuses. Nous ne perdons pas nos biens, nous ne perdons pas nos familles, nous ne voyons pas notre intégrité physique mais être mis en danger. Nous pouvons être rabroués quand même. Mais nous avons tellement de mal avec cela. Et là où j'entends nos frères et sœurs qui, eux, vivent cela, d'y parvenir, il y a quelque chose qui m'interpelle, franchement. Je me demande si parfois nous n'entendons pas assez la pertinence de ces paroles-là. Parce que là, ces frères qui sont persécutés pourraient être tentés de faire ce que nous faisons, certainement. Et pour autant, par amour pour le Seigneur, ils vont espérer, essayer d'aimer ses ennemis. Je ne dis pas qu'ils y arrivent tout le temps. En faisant pas des modèles absolus non plus. Mais ils y arrivent, et pourtant la douleur est plus grande. Alors ça pose question. Alors certes, ce commandement, comme je vous l'ai dit, peut parfois sembler absurde. Et pourtant, je vous l'avoue, ne serait-ce que ses frères et sœurs, soit du passé, soit d'aujourd'hui, nous montrent que cet amour est possible. Pas humainement possible, mais possible. Et d'ailleurs, regardons à celui qui, quelque part, a initié cela. À celui qui a tout commencé. Il y a eu un homme autrefois qui a manifesté aussi un amour absolu pour ses ennemis. Je pense que vous voyez vers où j'arrive là. Mais c'est bien Jésus qui, en premier, a manifesté cet amour à l'égard non pas de vils gredins, armés, sanguinaires, mais à l'égard de chacun d'entre nous. À un moment donné, autrefois, nous avons été ennemis de Jésus. Et si nous avions vécu à son époque, nous aurions pu être dans cette foule qui l'aurait suivi en disant « Waouh, c'est trop bien quand je l'entends, c'est super !» Mais au jour de Pâques, combien parmi nous auraient réussi à le suivre et de pleurer pour lui? Je ne suis pas sûr qu'on aurait été très nombreux à ce moment-là. On aurait été plutôt par cette foule déçue de se dire « Mais en fait, il vaut rien, il n'y a pas grand-chose, qu'il meure. » Ben, j'en sais rien, je ne sais pas ce qui s'est dit de tous ces petits gens-là qui ont vite changé de bord et qui se sont fait ennemis à ce moment-là de Dieu, sans s'en rendre compte, bien sûr. Mais je reviens à lui, c'est bien Jésus qui a manifesté cet amour à l'égard de chacun d'entre nous, alors que nous étions, voire peut-être aujourd'hui nous sommes encore ses ennemis. Et cet amour-là, celui-là même qui a permis notre rachat pour être réconcilié avec notre Père. Sachez que Jésus désire nous le communiquer. Lui, il l'a vécu à la perfection. Il peut placer ça dans notre cœur si nous voyons que nous n'en sommes pas encore capables. Il désire même faire abonder cet amour dans notre vie par l'œuvre de son Esprit Saint. Rien n'est impossible à Dieu. Ce n'est pas parce que nous, nous pensons que nous ne sommes pas capables d'aimer nos ennemis que nous devrions croire que c'est impossible. Dieu veut que nous puissions y parvenir parce que nous devons compter sur lui. Il n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir continuer de nous transformer en vue de nous rendre plus semblables à lui. Alors, osons lui faire confiance. Et peut-être ainsi, tout dépend les manières dont nous avons parfois de réagir face à nos ennemis, peut-être ainsi je n'arriverai plus à ne balancer des invectives ou des paroles de colère à ceux qui parfois me taquinent de trop, à ceux qui me bousculent de trop, à ceux qui m'énervent. Ne serait-ce que ça, hein, c'est pas des grands persécuteurs, mais il y a toujours des gens qui nous énervent autour de nous. Ne serait-ce qu'un voisin de palier qui, je sais pas, laisse ses poubelles tout le temps traîner sur le palier de l'immeuble, ou autre chose au boulot. Ou peut-être même parce que c'est devenu vraiment le lieu de l'insulte, de la haine sur les réseaux sociaux. J'ai pas l'impression qu'il y ait de vraies paroles d'amour beaucoup qui circulent sur ce genre de lieu. Hein. Je suis pas un expert, j'avoue, je fuis ces choses-là, je les trouve insipides, mais du peu que je vois, des réactions que généralement les gens aiment à placer là-dessus, ce sont plutôt des réactions de haine, de rejet. Il n'y a rien de l'amour de l'ennemi hein, qui rejaillit là-dedans. Alors je pense, et je ne rejette pas ces choses-là, ce sont des outils. Ou d'ailleurs, on peut témoigner de l'Évangile. Mais j'espère pour ceux qui aiment à y passer du temps, qui aiment à y laisser des paroles, que vous y êtes de vrais témoins. Que lorsque vous sentez des gens qui, quelque part, vous rabrouent ou touchent à ce qui vous semble fondamental, que vous arrivez à trouver des paroles d'amour envers ceux qui sont là vos ennemis, même si vous ne les voyez pas. Et c'est très souvent l'avantage sur ces réseaux sociaux, parce qu'il n'est pas en face de vous, il y a peu de chances qu'il vous mette un point dans la figure, et ben vous pouvez balancer vos flots. Alors j'espère que ce sont des flots d'amour envers eux, que plutôt des flots de haine qui répondent à leur propre haine. Parce que c'est certainement là aujourd'hui où nous pouvons exercer, je l'espère, l'amour de l'ennemi. Alors il faut vouloir y être, hein. Moi, c'est pas trop là que j'aurais facilité à le faire, mais nous avons tous ces tentations qui nous tombent sous le nez un jour. Comment nous allons réagir? Et j'en reviens à cela, mais le Seigneur, aujourd'hui encore, bien que nous sommes dans une situation en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, dans une situation vraiment paisible, je n'ai pas dit parfaite, hein, paisible, nous sommes pourtant éprouvés, testés, tentez même, quant à ce commandement. Allons-nous haïr notre ennemi comme lui nous haït? Et pourquoi pas d'essayer d'en rester à la loi du talion? Il m'invective, je l'invective, il me bouscule, je le bouscule, ça va, ça reste biblique. Laissez tomber ça, c'est fini. C'est plus ce que nous demande le Seigneur. Le changement que Dieu veut apporter encore dans ma vie, dans nos vies, et je m'inclus dedans. En général, je suis plutôt paisible. D'ailleurs, c'est le mot que j'ai préféré utiliser aujourd'hui, c'est pas pour rien. Mais quand on me taquine de trop, c'est le côté un petit peu de mes ancêtres qui rejaillit parfois. J'exagère, hein, il ne s'agit pas que de ça, mais dans ma famille, il y a eu beaucoup de gens de tempérament, et j'ai été éduqué avec des gens de tempérament. Donc je dois garder encore un peu de ce genre de tempérament qui ne m'aide pas toujours. Et je m'incrimine là-dedans. Si on me bouscule de trop, je risque de mal réagir. Et j'ai besoin que le Seigneur travaille en moi. Et d'ailleurs, je vais finir sur quelques versets bibliques, qui sont des encouragements, je l'espère, pour chacun d'entre nous. Parce que nous pouvons encore entendre ces invitations dans d'autres versets des évangiles, toujours d'ailleurs dans l'évangile de Luc, c'est le dernier, mais je l'ai pris dans une autre traduction, où il était dit, dans une des formes, « Votre Père est plein de bonté, soyez donc bon comme lui ». Mais une autre, plus ancienne, dans un français qui plaît parfois à certains, « Soyez magnanime comme votre Père est magnanime ». Bon, c'est plus le mot qu'on nous avons l'habitude d'entendre, mais Il dit cela. Ou encore, ailleurs dans l'évangile de Matthieu, ainsi vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste. Alléluia. Je continue. Car lui, il fait luire son soleil sur les méchants, aussi bien que sur les bons. Il accorde sa pluie aux justes comme aux injustes. Et ça, c'est pas une nouveauté, on l'entend déjà dans l'Ancien Testament. En de nombreux lieux, y compris Job aussi. Cet amour de l'ennemi, c'est pas une nouveauté. Dieu l'attendait déjà. Même s'il prenait patience envers ceux autrefois qui commençaient à le découvrir. Dieu ne désire pas garder le privilège d'aimer ceux qui lui sont hostiles. Tout vient de lui. Mais il ne veut pas garder ce privilège. Il nous l'offre. C'est un magnifique cadeau qu'il nous fait là. Il veut partager ce privilège avec nous, d'arriver à aimer nos ennemis. Il nous invite à sa suite et à devenir tel son fils, des disciples de Jésus. Parce qu'être disciple de Jésus, c'est aussi arriver à accomplir cela petit à petit. Attention, je ne vous demande pas le miracle. J'espère le miracle, mais Jésus nous y invite. Aussi, mes frères et mes sœurs, très simplement, comme je le fais souvent, mais là, ça me semble vraiment important, prenons un instant, chacun, peut-être vous l'avez déjà commencé, mais prenons un instant de silence pour nous laisser sonder par Dieu, par son esprit. Peut-être même s'il y a besoin de demander pardon, faisons silence. Seigneur, face à la radicalité de ton exhortation pour nous, nous pouvons parfois défaillir et d'imaginer que cela nous semblera impossible, parfois plus encore quand nos caractères vont souvent dans le mouvement contraire. Mais pour autant, Seigneur, parce que certainement nous n'y parvenons pas à chaque fois et que nous nous laissons tenter aussi par la haine en réponse à la haine, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous encore parce que nous n'avons pas su témoigner et briller de ton amour autour de nous. Parfois déjà dans nos propres petits cercles, dans le cœur de nos familles, mais cela bien sûr rejaillit parfois aussi tout au-delà. Aussi, Seigneur, pardonne-nous et aide-nous à grandir. Seigneur, cet amour qui nous est parfois difficile de comprendre, nous avons besoin encore de le recevoir de ta part. Car oui, Seigneur, merci, parce que toi, tu l'as manifesté. Tu l'as manifesté pleinement. Pleinement pour chacun d'entre nous. Et justement, dans un instant, nous allons partager ce repas que tu as eu aussi avec tes disciples qui, eux aussi, n'ont pas toujours su se comporter comme des amis et, sans le comprendre, sans le vouloir aussi, se sont fait ennemis de toi, d'une certaine manière. Mais toi, tu as continué de les aimer, tu as continué de revenir vers eux et de leur montrer, toi, ton amour et ta fidélité, de les restaurer et de les aider à avancer. Aussi, Seigneur, donne-nous de grandir, de ne pas stagner là où nous en sommes, de ne pas croire que nous sommes irrésolument incapables de changer. Seigneur, donne-nous d'oser, de te faire confiance plus encore, de savoir qu'il est possible que tu puisses nous transformer même pour cela. Car oui, Seigneur, nous avons aussi besoin que tu nous aides en cela, pour que simplement nous puissions être aussi plus encore tes disciples. Que cet amour que toi tu as eu pour nous, nous puissions nous aussi en être les petits témoins que tu nous invites à être ici-bas aujourd'hui. Aussi, Seigneur, que ta grâce abonde dans nos vies, que ta grâce abonde dans notre cœur, dans notre intelligence, afin que, dès aujourd'hui et demain, nous parvenions plus encore à aimer bien sûr nos prochains, mais aussi à aimer ceux qui se font plaisir parfois à être nos ennemis. Amen. Je ne quitte pas tout de suite la chair, mais nous allons partager justement maintenant le repas du Seigneur, celui qu'il a eu partagé autrefois avec chacun de ses disciples, y compris d'ailleurs un qui restera son ennemi. Un certain Judas, qui lui voulait vraiment du mal, mais le Seigneur jamais ne l'a jarté, excusez-moi le mot, hein, mais jamais ne l'a repoussé. Il n'a eu de cesse d'ailleurs de l'interpeller, même si à un moment donné, il savait que dans son cœur, il avait fait un pas de trop, et qu'il lui serait impossible de revenir en arrière. Mais nous ne sommes pas celui-là. Nous sommes plutôt de ceux qui ont été les onze, qui ont partagé ce repas, mais qui au soir où les soldats sont venus le chercher n'ont pas réussi à rester à côté et ont préféré le laisser tout seul ou presque. Nous sommes imparfaits comme les premiers disciples l'ont été. Mais Jésus nous invite à revenir à cette table pour reprendre ce repas qui est un repas symbolique où nous allons partager et ce pain et cette coupe qui nous rappelle ce que Jésus a accompli pour nous. Nous qui étions autrefois ses ennemis et qu'il appelle aujourd'hui avec joie et fierté ses amis, ses frères, ses sœurs. Quel changement! C'est lui qui l'a fait, hein? Alors ne vous privez pas de ce repas. C'est pas parce que nous sommes imparfaits que nous devons nous priver de ce repas. C'est parce que justement nous nous savons pécheurs et fragiles encore aujourd'hui que nous sommes invités à prendre ce repas. Nous qui avons déjà confessé son nom. Nous qui avons dit que maintenant il était la première personne dans ma vie, avant même par exemple mon épouse. Bon, c'est pas toujours facile à dire à son épouse, mais j'exagère, ne le dites pas comme ça. Mais vous savez à quel point il est important dans notre vie. Il est, il doit être le premier dans nos vies. Et il nous invite encore ce matin à venir revenir vers lui. À vouloir lui refaire confiance encore, à vouloir espérer en lui afin qu'il puisse nous nourrir. Non pas par un petit bout de pain et un tout petit peu de jus de la vigne, mais par toute la grâce qu'il peut encore placer en nous. Que vous puissiez chacun prendre ce repas dans cette perspective, et pendant que nous allons le prendre, n'hésitez pas à le louer. N'hésitez pas à l'adorer. Il y a maintes manières, vous pouvez bien sûr le faire dans le silence si vous n'osez pas le faire à haute voix, mais vous pouvez le faire par une prière ou par un court refrain. Mais vous qui avez déjà confessé le nom de Jésus, levez-vous et je vais inviter, alors s'ils le veulent bien, Délius et Lucas, si vous voulez bien me rejoindre tous deux, et je vais demander aussi à une mère et à sa fille, à Rosemary et à Cherline, si vous voulez bien venir aussi. J'ai besoin de vous quatre pour apporter les éléments de ce repas à chacun des frères et sœurs qui vont pouvoir se lever à leur place maintenant. Voilà, vous quatre que j'ai appelés, rejoignez-moi maintenant s'il vous plaît, et vous autres, n'hésitez pas à vous lever à votre place afin que nous puissions partager ensemble ce repas.
Ainsi, ce pain que nous rompons maintenant et que nous allons partager est un rappel pour nous de l'œuvre du Christ à la croix, ce qu'il a accompli. Que ce pain que nous allons manger ensemble d'un même geste à la fin, une fois qu'il aura été distribué, nous rappelle qu'il nous a fait frères et sœurs, que nous faisons partie de ce même corps qu'il appelle son peuple. Vous puissiez tous le partager, et si vous en avez le cœur, n'hésitez pas en plus, quand vous le tendez peut-être à votre frère ou à votre sœur à côté de vous, d'avoir pourquoi pas une parole fraternelle, très simple, très courte, mais n'hésitez pas si vous en avez le cœur.
Et pendant qu'ils viennent vers vous, prenez ce pain, attendez, mais n'hésitez pas à le louer ou à l'adorer.